Ben, bonjour à tous et à toutes. Merci de participer. Merci d'être là. Et je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe qui, avec moi, s'est mobilisée depuis plusieurs mois pour monter ce webinaire. Donc, le Réseau de santé publique vétérinaire est une association qui existe depuis plus de 10 ans et on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous des gens qui ont été parmi les membres fondateurs de cette association. L'objectif, c'est de mettre en réseau les acteurs de la santé publique vétérinaire. Et cet automne, nous avons choisi d'organiser ce type d'activité, donc ce webinaire autour d'un thème, l'alimentation et les territoires. Mettre en réseau tous les acteurs, et aujourd'hui on y arrive, puisque vous êtes pour certains issus des services de l'État, du ministère de l'Agriculture, pour d'autres issus de l'enseignement, de la recherche, des organisations professionnelles agricoles, des chambres d'agriculture, vous venez du privé, vous êtes élus des collectivités locales, donc nous sommes très très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, manger, c'est se confronter à la nécessité de se nourrir à différents risques, on le sait. C'est aussi donc la richesse des recherches de plaisir. La France a une notoriété mondiale dans sa gastronomie du fait de la valeur, de la richesse, de la qualité de ses produits, de la spécificité des terroirs. Mais les questionnements sont croissants sur les risques en lien avec l'alimentation. Et on l'a bien vu dernièrement avec des crises d'Escherichia coli, des crises salmonelles. Et même ce week-end, avec un problème de botulisme dans de l'ail sous vide dans le sud de la France, dans l'Hérault. Donc, de nouvelles demandes sociétales se font jour face à ces questionnements. On observe la concentration des moyens de production, la complexification des réseaux commerciaux, et pour certains, cela correspond à une perte de repères alimentaires qu'ils souhaitent traditionnels. Les préoccupations environnementales augmentent, on souhaite revenir à certaines sources et donc l'offre et la demande en produits locaux augmentent de manière très très importante. Les actions publiques en face sont mises en œuvre. Donc on a des actions au niveau national, développement de programmes alimentaires, développement de plans nationaux, au niveau local avec les projets alimentaires territoriaux qui mettent en lien les producteurs et les marchés ou les débouchés auxquels ils peuvent avoir accès, de la restauration par exemple, restauration collective avec l'aide des collectivités territoriales ou actions publiques pour cadrer la réglementation, cadrer les règles qui s'appliquent dans l'objectif de toujours maîtriser les risques et les dangers, mais avec l'idée quand même qu'il faut adapter cette réglementation, être flexible pour qu'elle soit accessible à ces producteurs et souvent qui sont de petite taille et nous verrons avec eux comment ils vivent les choses. Donc, nous avons choisi cette année ce thème de l'alimentation des territoires avec cette question un petit peu provocante, le local est-il toujours sûr? 3 épisodes, donc qui seront le fil rouge de cet automne. Épisode E1, enjeux et perceptions, c'est maintenant. L'épisode 2, le point de vue des experts, le mardi 4 novembre de 13h à 14h. Et l'épisode 3, la nécessité d'une réponse co-construite. Je vous propose de noter dès à présent ces dates, mais ne vous inquiétez pas, nous aurons largement l'occasion de vous les rappeler. Épisode 1, donc c'est les enjeux et les perceptions du problème, des attentes fortes des consommateurs autour des produits fabriqués localement, mais qu'en est-il de la confiance qu'ils leur accordent? Et c'est Pierre Sens de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, donc qui est à la fois directeur et professeur, qui nous apportera son éclairage et je l'en remercie dès à présent d'avoir accepté de participer. Des initiatives en réponse avec des difficultés à surmonter. On aura des témoignages de restaurateurs et je remercie également Thierry Touzet, qui était donc directeur départemental de la protection des populations en Gironde et qui nous expliquera comment il a perçu l'épisode des sardines fabriquées maison à Bordeaux qui ont eu des retentissements sanitaires médiatiques importants. Des producteurs qui transforment avec l'exemple de la Sarthe, David Boutier, que je remercie également, de la ferme des Champs-Romais, qui nous exposera son activité de producteur transformateur de produits à base de viande. Et enfin, des fromages fermiers, un exemple avec Sylvain Bernard, chevrier et président de l'association des producteurs fermiers d'Isère. Bien évidemment, il y aura une place pour la discussion. Alors, pour fixer les règles tout de suite, je vous propose de bien laisser vos micros fermés afin que nos intervenants aient toute liberté pour exposer ce qu'ils ont envie de nous dire. Il y aura un enregistrement, j'espère que ça ne gêne personne. Nous ne savons pas encore comment nous utiliserons cet enregistrement, mais nous imaginons de le mettre à disposition pour une relecture éventuelle. Et enfin, il y aura donc certains parmi nous vont suivre ce qui se passe dans le chat. Donc, si vous avez des questions, je vous propose de les poser par le chat et ça permettra ensuite de faire une synthèse et de les poser à nos intervenants. Mais d'abord, de quoi parle-t-on? Alors, on parle de différentes choses quand on parle de l'alimentation. On parle de système alimentaire. À l'échelle globale, c'est l'ensemble des acteurs, l'ensemble des activités qu'ils exercent pour produire des produits alimentaires à partir de l'agriculture au sens large, c'est-à-dire également la sylviculture ou la pêche, depuis la production jusqu'à la livraison aux consommateurs et en incluant également la gestion des déchets, mais cela dans un environnement qui sera un environnement naturel, économique que sociale. On peut avoir l'objectif d'avoir des systèmes alimentaires durables quand l'objectif est également d'assurer, de garantir la nutrition et la sécurité sanitaire aux générations qui vont nous suivre, ou de systèmes alimentaires locaux. Et là, il s'agit de l'échelle d'un bassin de vie. Un bassin de vie, c'est le périmètre dans lequel des habitants vont trouver les équipements et les services dont ils ont besoin. On parle de produits du terroir. Le produit du terroir, il est défini par rapport à un ancrage territorial, par rapport à une valeur ajoutée de ce territoire, un savoir-faire souvent traditionnel, des méthodes particulières spécifiques. Par contre, quand on parle de produit local, la définition est beaucoup plus floue et pourtant, cela représente énormément pour les consommateurs. On parle de vente directe lorsqu'il y a un lien direct entre le producteur et le consommateur, mais avec certaines ambiguïtés. On peut faire de la vente directe donc sur une foire à l'autre bout de la France. Et enfin, on parle de circuit court lorsqu'il y a cette fois zéro ou un intermédiaire entre le producteur et le débouché, le consommateur qui l'utilise. Enfin, circuit de proximité, là aussi définition floue, représentation, mais on ne sait pas vraiment quelles sont les limites de cette proximité qui n'ont jamais vraiment été définies. Beaucoup de circuits, une grande diversité dans ces circuits donc possible pour cette vente directe ou de cette vente en circuit court. On peut avoir une activité individuelle avec différents points de vente sur des foires, des marchés, des ventes à la ferme, collectif avec un engagement des consommateurs, c'est le système des AMAP qui a pris pas mal d'ampleur dans nos régions, ou bien sous forme associative avec là aussi différents types de points de vente, foire marché à la ferme, marché paysan, etc. La vente en circuit court, idem, de manière collective ou individuelle, mais va permettre d'ouvrir un peu plus de débouchés avec d'accès à des boutiques en dépôt-vente, avec des commerces de détaillants ou GMS, puisqu'un intermédiaire est possible, des restaurateurs, des artisans, voire la restauration collective ou l'aide alimentaire. Et donc, c'est dans toute cette diversité que nos producteurs vont essayer de développer leurs activités et de faire face aux difficultés. Un premier questionnement, quels sont les facteurs déterminants du choix de ces consommateurs pour les produits locaux et les circuits courts de proximité? Existe-t-il des liens objectifs avec la confiance qu'ils leur accordent? Je vous propose d'écouter Pierre Sens, professeur et directeur à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, et je vais laisser la parole à Rodolphe qui va assurer l'animation de cette réunion.
Eh bien, bonjour à tous. Merci Sylvie pour cette introduction très professionnelle. Je vais simplement repréciser ta question à Pierre. Qu'est-ce qui finalement fait la confiance du consommateur? Et pour revenir plus précisément encore sur notre sujet, est-ce que le local est un véritable facteur de réassurance pour le consommateur? Et si oui, pourquoi?
Oui, bonjour à tous, merci de cette invitation. Donc pour essayer de répondre à ces deux questions, je voudrais un peu revenir à la façon dont on peut appréhender, dont un consommateur peut appréhender un produit alimentaire. Si on se place dans une perspective un peu économique, sur ces travaux de consommation, d'économie de la consommation, classiquement, en fait, on considère que un produit, c'est un ensemble de caractéristiques ou de ce qu'on appelle aussi des attributs. Et dans ce package, quelque part, d'attributs ou de caractéristiques, on peut les catégoriser en trois types. Le premier, c'est ce qu'on appelle des attributs de recherche. Les attributs de recherche, ils sont définis comme étant des attributs directement mobilisables par le consommateur au moment du choix. C'est par exemple le fait de choisir un fruit sur sa couleur, sur sa fermeté, sur une viande, sur son caractère brillant, sur le gras apparent ou non, etc. Tout ça, ce sont des attributs que le consommateur voit et dont il se sert potentiellement pour sélectionner, choisir un produit. Ensuite, on a ce qu'on appelle des attributs de recherche, des attributs, pardon, d'expérience. Les attributs d'expérience, ce sont des attributs qui ne peuvent être perçues qu'une fois le produit consommé. Typiquement, la tendreté d'une viande, le goût d'un produit, etc. Et donc, déjà, on peut voir que un consommateur qui va mobiliser des attributs de recherche tels que la couleur, etc., ou un taux de gras, et qui, une fois qu'il aura consommé ce produit, sera satisfait par cette consommation, ben, ça va venir renforcer la confiance qu'il aura dans ses attributs de recherche, même si peut-être il n'y a pas de lien avéré scientifiquement entre son expérience positive et les attributs de recherche qu'il a utilisés. Et puis ensuite, il y a une notion d'attribut de croyance. Les attributs dits de croyance, ce sont des attributs auxquels, qui sont aussi des vecteurs de choix pour le consommateur, mais pour lesquels, en fait, pourquoi on appelle ça de la croyance? Parce que, y compris après avoir consommé le produit, le consommateur ne peut pas savoir si ce qu'on lui a dit, raconté, ou ce qui est présent sur une étiquette était exact ou vrai dans ce qu'il y a, dans ce qu'il a consommé. Alors, c'est par exemple tout un certain nombre de labels, ce sont des compositions nutritionnelles, ce sont le caractère, par exemple, local d'un produit. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est écrit sur les étiquettes est faux, hein, et qu'il y a des fraudes, etc. C'est pas ça la question. La question, c'est que du côté du consommateur, il attribue une certaine valeur à ces éléments-là. Ce sont des éléments de choix pour lui. Et pour autant, il ne peut pas vérifier que c'est exact dans le produit qu'il a consommé. Quand on est, par exemple, sur des zéro pesticides, sur des choses comme ça, eh bien, c'est écrit quelque part. Pour autant, le consommateur, il ne fait pas une analyse pour savoir si oui ou non, effectivement, il y avait zéro pesticide dans son produit. Donc, ces attributs de croyance, ce sont des vecteurs qui, notamment sur les produits alimentaires, ce sont des éléments qui sont assez très importants dans beaucoup de consommation. Et parmi ces attributs, ben, le local est un attribut qui est valorisé. Alors, qui est valorisé fortement, qui est valorisé évidemment avec une variation interindividuelle forte, et on verra aussi une variation de cette importance en fonction des circonstances. Alors, pourquoi ce local génère de la confiance? Qu'est-ce qui peut expliquer comment on peut décomposer ça? Ben déjà, je pense qu'il y a un facteur de proximité, qui est un facteur de proximité, surtout dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, qui est une recherche importante de beaucoup de consommateurs, de la rupture de la distance entre ben, le monde agricole, la matière première brute et le produit alimentaire que l'on consomme, et donc probablement une recherche de proximité fortement valorisée. Ensuite, la possibilité dans certaines situations, pas toujours, mais d'entrer en relation interpersonnelle avec le producteur, l'agriculteur. Et donc ça, c'est aussi fortement valorisé. Alors ça peut être de la vente à la ferme, mais c'est aussi la possibilité de discuter sur un marché, si c'est le propre, si la personne qui vend est celui qui a produit. Donc ça, évidemment, ce sont des facteurs de confiance. Et puis aussi, pour certains consommateurs, et je pense que c'est probablement de plus en plus développé, le sentiment et qui valorise le consommateur de contribuer à l'économie de son territoire, donc d'être un acteur quelque part du développement de son territoire par le fait de consommer local, de l'alimentaire, mais aussi d'autres produits.
Est-ce que Pierre, si on revient sur la question de la qualité ou de la sécurité sanitaire, il y a un lien où on est capable d'identifier un lien réel entre le local et l'idée que le consommateur se fait de la qualité sanitaire?
Enfin, je pense que c'est très partagé. Je pense que ça serait peut-être assez exagéré de dire qu'elle est systématique ou qu'il y a systématiquement un lien qui est fort. Par contre, ce qu'on peut constater, et là c'est empirique, c'est que lorsqu'il y a des crises sanitaires fortes, importantes, ben, ce caractère local est un facteur de réassurance important. Je prendrai deux exemples. Lorsqu'il y a eu les différentes crises de l'encéphalopathie, je pense, du porc bovine ou crise de la vache folle, on a vu et ça s'est mesuré dans les chiffres de consommation, un développement de la vente directe ou des circuits courts, y compris sur un produit comme la viande bovine, qui est un produit qui n'est pas très facile à vendre en vente directe ou en circuit court, parce que il y a des carcasses, il faut découper, il faut transformer, il faut assurer une conservation, etc. Pourtant, ben, on a vu par ricochet quelque part à cette crise ce développement-là. Et le deuxième élément, c'est de cette réassurance, c'est qu'on a vu aussi à ce moment-là, et on le voit encore dans certains cas, des grandes surfaces, souvent plutôt en milieu rural évidemment, qui ont proposé aux consommateurs d'aller visiter la ferme ou qui ont affiché le fait que la viande qui est mise en étal au rayon boucherie aujourd'hui vient de la ferme de Monsieur X avec la photo de la vache derrière ou Madame X avec la photo de la vache et en disant que ça se situe à 20 km du magasin. Donc, je veux dire, pour que des distributeurs adoptent ce type de raisonnement-là, c'est que très clairement, il y a une forme de réassurance. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que ce mouvement-là, il n'a pas forcément, on va dire, il y a un effet lié aux crises, mais ben on peut avoir un retour un peu à la situation hantée. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est tout à fait pérenne. On est sur quelque chose qui est plutôt un facteur de crise. Bon, pour résumer, oui. Le local est un facteur, un attribut qui est recherché. C'est un attribut qui est un attribut générateur de confiance pour les consommateurs, avec évidemment le risque que si le produit déçoit ou s'il y a un accident, eh bien ça vienne entacher quelque part l'importance, la confiance dans ces produits locaux.
Merci pour ces précisions. David Boutier, donc vous êtes producteur, transformateur en porc et en maraîchage. Comment ça fait écho les propos de Pierre Sens dans votre expérience de producteur-transformateur, sachant que vos consommateurs ne sont pas forcément tous à côté de chez vous, vous expédiez relativement loin parfois. Comment vous vivez ça et à la limite, comment faites-vous, vous, pour cultiver cette confiance de façon très pratique?
Tout d'abord, bonjour. Donc, bah, écoutez, oui, ça fait quand même déjà maintenant 34 ans que nous fonctionnons en fait en vente directe. Voilà. Aujourd'hui, donc c'est vrai que, comme disait Monsieur Sens, effectivement, il y a une confiance évidemment qui s'instaure effectivement du fait de la proximité, ça c'est sûr. On fait aussi des visites de l'exploitation quelquefois et donc voilà, nous en fait, nous produisons du bœuf, du cochon, des ovins, des volailles. On fait également du maraîchage en bio. Voilà. On cultive à peu près 250 hectares de culture et d'herbage. On a une fabrique d'aliments sur le site à la ferme. Et on a aussi notre propre abattoir multi-espèces, porc et ovins également sur le site. Donc, c'est-à-dire que, comment dire, nous maîtrisons, je dirais, toute la chaîne, quoi, hein, jusqu'à la transformation. Donc, on a un atelier de transformation également sur la ferme et nous faisons de la vente directe, donc à la ferme. On a une petite boutique pas très loin de chez nous et également nous faisons les marchés fin de semaine. Et nous avons également des revendeurs sur Paris, région parisienne, que nous livrons 2 fois par semaine.
C'est quoi la proportion entre ce que vous expédiez sur Paris et ce qui reste en véritable proximité, on va dire, géographique?
Eh ben, à peu près 40%.
D'accord.
40% de notre activité, et 60% en vente directe, quoi.
OK.
C'est ça.
Et du coup, comment vous travaillez cette confiance au quotidien, que ce soit sur les plans sanitaires ou autres?
Ben, disons que je voulais dire sur la communication par rapport à nos clients, c'est
Oui,
ça
et puis surtout
ou...
vos process, etc. Parce que qu'est-ce qu'il vous demande le client, en fait? Est-ce qu'ils vous demandent, est-ce qu'ils ont des sujets sur le sanitaire, par exemple?
Ah ben, bien sûr. Une fois, on avait fait quand nous avons donc en 2010 ouvert notre abattoir, nous avons fait une inauguration et fait une visite de l'abattoir. Et étonnamment, nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui était très intéressé justement pour visiter l'abattoir, savoir exactement comment ça fonctionnait. Oui, c'est ça, ils étaient vraiment très intéressés. Donc, évidemment, par rapport au bien-être animal, par rapport à tout ça, Effectivement, les gens sont sensibles à ça et de plus en plus. Et donc, vraiment, il y a une confiance comment dire, qui se pose là, quoi. En fait, je veux dire, du fait que comment dire, on leur explique bien tout notre fonctionnement et qu'on soit totalement transparent sur toute notre production, quoi.
Très
C'est
bien.
ça.
Sylvain, je ne vous ai pas repéré dans la foule, si voilà. Merci d'allumer votre vidéo. Si vous avez quelques secondes pour présenter l'association, parce que je trouve que c'est intéressant le rôle d'interface que vous avez, qui est vraiment celui-là, c'est d'accompagner les producteurs et les transformateurs qu'ils sont sur ces enjeux sanitaires, mais autres. Quel rôle vous jouez? Comment vous faites ça pour accompagner vos producteurs, transformateurs adhérents vers cette notion de garantir une certaine qualité sanitaire et de la gérer aussi en cas de crise vis-à-vis du consommateur et aussi vis-à-vis de l'administration. On ne vous entend pas. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais on ne vous entend toujours pas. Je n'ai pas l'impression que votre micro soit coupé, mais il y a peut-être un problème de connexion. Ce que je vous propose, c'est... Ah si, il faut peut-être monter le son parce qu'on vous entend très très loin. Enfin, moi, je vous entends très très loin. Ou alors, il faut parler beaucoup plus près ou beaucoup plus fort. Réessayez?
Là, ça va?
Oui, parfait, impeccable.
Désolé. Du coup, par rapport aux producteurs, donc on a deux conseillères. Donc le point commun de tous nos adhérents, c'est qu'ils sont transformateurs, c'est-à-dire qu'ils transforment leurs matières premières, donc ils sont tous agriculteurs, à quelques exceptions près. Donc du coup, on a un volet laitier, un volet carné. On a également des gens qui font de l'emballage d'œufs, et puis on a du végétal et des escargots. Mais ça, c'est plus... On va dire que c'est une partie qui est un peu plus faible. Et donc, comment on accompagne nos producteurs? C'est que, disons que chaque producteur est tenu de faire des autocontrôles pour contrôler la qualité de leurs produits. Alors, avant ça, en amont, l'association acculture et forme les producteurs à tout ce qui est réglementaire, sanitaire et technologique pour faire en sorte que les producteurs aient les éléments pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et répondre aux obligations, on va dire, réglementaires. Donc ça, c'est à travers des formations, à travers la diffusion d'informations au fur et à mesure. Et donc, par rapport aux autocontrôles, en fait, nos conseillères sont systématiquement destinataires des autocontrôles, entre guillemets, non conformes. Alors, il faut faire attention avec la non-conformité. Non-conformité veut dire non conforme par rapport à la réglementation, mais pas forcément sujet à déclaration. Donc, il y a des non-conformités faibles qui vont être traitées directement avec les producteurs. Et donc, nos conseillères veillent au grain que donc il y ait des choses qui soient faites. Et puis, on va ensuite, si jamais cette non-conformité est à déclaration obligatoire, donc ça va être sur des géants comme la listeria ou la salmonelle, des choses un peu plus... Voilà. Nos conseillères vont mettre en place une démarche systématique de résolution des problèmes. Donc le producteur n'est pas laissé seul, parce qu'en général, quand ça arrive, le producteur, il est dans un état psychologique assez compliqué, parce que c'est compliqué de se dire qu'on a potentiellement intoxiqué des personnes, mais disons qu'il y a une démarche systématique de résolution du problème qui est mise en place pour faire en sorte que on résolve le problème. Voilà.
Que vous m'expliquiez en off, c'est que cette systématisation de la démarche et ce côté process très clair est de nature à rassurer tout le monde et à faire en sorte que ça avance dans le bon sens.
Alors, ça rassure, disons que dans la démarche, s'il y a des produits qui sont déjà commercialisés, il y a une organisation des retraits-rappels. En fait, l'association, on va dire, manage toutes les actions qui sont autour de ces alertes. Il y a les retraits-rappels auprès des clients, et je voudrais rebondir par rapport à ce que dit Monsieur Sens. En général, nos clients, en fait, sont plutôt rassurés qu'on leur dise qu'on a un souci, qu'il est en cours de résolution, et on a assez peu de défections de nos clients suite à ce genre de problématique, puisqu'ils ont conscience qu'on a pris en compte le problème, on a été honnête avec eux, transparent, Et du coup, derrière, il y a une relation de confiance qui se crée malgré cet accident potentiel. Et du coup, on gère aussi la relation avec les services vétérinaires, parce que nos producteurs, des fois, sont un petit peu dans... Enfin, voilà, on a déjà des vies qui sont assez lourdes en charge
Chargé.
mentale. Et voilà, donc, du coup, quand il y a une alerte, ben, ça en rajoute une petite couche. Et donc, du coup, ben, on gère aussi la relation avec la DDPP. Et les services vétérinaires sont en général rassurés, sont en général rassurés. Enfin, au niveau du département, ils sont rassurés de savoir que APFI intervient parce qu'ils savent que le problème est pris dans le bon sens et avec une méthodologie bien spécifique.
Thierry Touzet, vous êtes bien placé pour savoir que parfois ça ne se passe pas bien par rapport à ce que vous entendez là et puis par rapport à votre expérience hein, sur le cas que précisait Sylvie tout à l'heure sur les sardines fabriquées ou transformées maison par un restaurateur. Comment les services de l'État ils se positionnent dans ces cas-là et comment vous travaillez et comment vous avez travaillé sur ce cas-là?
Alors au départ, bonjour à tous. Au départ, il y a eu une alerte, hein, bien sûr, de l'Agence régionale de la santé. Lundi matin, on est informé que des personnes sont hospitalisées avec un diagnostic de botulisme, sans doute relié à une consommation de bocaux de sardines et avec la traçabilité, disons, l'identification du restaurateur en question. Et donc, dès le jour même de l'alerte, on se rend chez ce restaurateur et on lui demande de ne plus produire et de ne plus commercialiser tout ce qu'il a pu fabriquer pour essayer d'y voir plus clair et de voir si effectivement il y a un problème de maîtrise qui se généralise ou pas. Ensuite, bah, c'est le nombre de malades qui s'accumulent. C'est malheureusement un décès aussi d'une jeune femme. Et donc, c'est ensuite une course contre la montre. On identifie qu'il y a environ une trentaine de consommateurs qui ont pu consommer les bocaux de sardines. Et donc, ça va être un travail contre la montre pour essayer de retrouver ces consommateurs. On est en pleine Coupe mondiale de rugby à Bordeaux. Et donc, en fait, on a beaucoup de consommateurs qui sont potentiellement des personnes qui n'habitent pas sur Bordeaux et qui sont étrangers, en fait. Et en fait, on va actionner un système un peu original qui est, en fait, la traçabilité par l'étiquette carte bleue. Et on va avoir une très bonne collaboration avec la banque du restaurateur, qui va tracer, retrouver par les cartes bleues, en fait, l'identité des consommateurs. Et via Santé publique France, qui a été aussi, bien sûr, c'est tout un réseau, hein, aussi le réseau de la santé humaine, Santé publique France va contacter parfois les ambassades, parfois les pays, pour retrouver les dits consommateurs. Voilà donc une course contre la montre. Et puis un travail après local vis-à-vis du restaurateur, comprendre ce qui a pu se passer, endiguer, entre guillemets, le risque, c'est-à-dire qu'il ne commercialise plus les produits qui potentiellement sont contaminés, des prélèvements, des analyses qui confirment la présence de la toxine dans les bocaux de sardines. Voilà comment on a procédé avec, d'une part, un travail en réseau avec les acteurs de la santé humaine, hein, donc l'hôpital, l'Agence régionale de santé, la Santé publique France, et puis une collaboration très très forte avec le restaurateur, parce qu'on attend de lui, là, j'entendais la question de la confiance, on attendait du restaurateur une collaboration, donc il nous remette cette étiquette carte bleue. Il a communiqué aussi sur son site, hein, parce que c'était un restaurateur très dynamique, très renommé en tant que cave à vin, en tout cas bar à vin. Et donc il a aussi, on lui a demandé d'être très transparent en termes de communication vis-à-vis de ses consommateurs.
Et du coup, avec du recul, comment, si, sachant que l'affaire n'est pas finie, donc vous ne pouvez pas tout nous raconter non plus, hein, il y a encore des choses qui sont en jeu derrière cette affaire-là, qu'est-ce qui, dans ce cas précis, pour vous, a manqué ou qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait et qu'est-ce qui a bien fonctionné? Le bien fonctionné, moi, j'entends surtout déjà ce que vous nous dites à travers un niveau de collaboration assez intéressant avec des acteurs que, a priori, on n'a pas dans le scope quand on analyse ce genre de sujet. La question de l'hôpital et compagnie, mais les banquiers, moi, j'étais loin de m'en douter. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui aurait manqué? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux en étant plus efficace, en fait, en amont comme pendant le traitement de la crise?
Je dirais qu'en fait, la question qui est posée par cet épisode dramatique, c'est la maîtrise en fait de process qui sont à risque. Et on sait que la fabrication de conserves, bah, c'est un process qu'il faut absolument maîtriser parce que les intoxications botulisme sont souvent liées à des problèmes de conservation et de conserves mal maîtrisées, de conserves familiales ou en tout cas dont le process n'a pas été maîtrisé. Et donc en amont. Et ça, c'est de façon globale. Vous savez que les restaurateurs sont pas obligatoirement diplômés, ont pas obligatoirement une formation. C'est toute la question de la formation initiale des personnes qui commencent à faire des process un peu plus compliqués. C'est ensuite de faire ce travail de validation du process avec des professionnels qui peuvent accompagner le restaurateur ou le fabricant dans la fabrication de ses conserves, c'est-à-dire faire valider le process aussi avec des analyses. Et ensuite, j'ai entendu la notion d'autocontrôle, hein, de contrôler un certain nombre de critères, qui est le barème, temps, température, pression. Donc voilà, c'est tout cela qui a sans doute manqué à ce restaurateur, la question de la formation initiale, la question de l'autocontrôle, la question de la maîtrise d'un process qui est quand même de fait à risque.
Je vais laisser rebondir David sur ces questions-là à travers les différents témoignages qu'on a là. On voit bien que tout le monde fait de son mieux pour garantir le côté, la qualité sanitaire du local et la sécurité de la production locale, de la transformation locale. Dans votre expérience, sachant que vous avez réouvert un abattoir il n'y a pas très longtemps à la suite d'un sinistre, qu'est-ce qui, avec votre expérience de 35 ans, vous semble difficile? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que ça coûte aussi en tant qu'entrepreneur sur ces sujets-là? Si on a une idée de ce que ça coûte en temps et en moyens, cette garantie sanitaire-là, qu'est-ce qui manque dans le process ou qu'est-ce qui vous est difficile pour vous?
Disons que, donc effectivement, hein, que ce soit aussi bien sur l'abattoir comme dans le nouvel atelier là, qu'on a remis en service suite à un incendie, donc on est déjà épaulé par Marc Leclerc qui nous aide bien effectivement dans les démarches d'autocontrôle et de suivi sanitaire, etc.
Qui est un vétérinaire, hein, pour il pourra peut-être se présenter lui-même, mais.
Voilà, c'est ça. Donc, eh ben, on a mis en place donc un cahier des charges, enfin avec des autocontrôles, donc du départ en fait de l'abattoir, hein, jusque dans l'atelier de transformation, avec des numéros de lot qui se suivent jusqu'à l'emballage en fait final qui part directement au consommateur. Donc quelque part, bon bah effectivement, si toutefois il y avait un problème un jour. On pourrait effectivement retracer tout ça, hein, sans problème. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la DDPP, etc., on nous en demande toujours de plus en plus, hein. C'est sans doute parce qu'il y a eu des accidents et que voilà, c'est sans doute justifié. Mais il y a un réel coût quand même en termes de moyens à notre échelle, à nous qui sommes encore des producteurs et non pas des salaisons, quoi, hein, où ils peuvent embaucher des gens au service qualité
Dédié à
précisément, ben
ça,
c'est moi,
ouais.
c'est ça. Donc moi, c'est moi qui m'en occupe, mais c'est vrai que c'est de plus en plus lourd quand même, quoi. Je veux dire, on est quand même, je veux dire, de plus en plus d'autocontrôle à faire, beaucoup plus de suivi. Voilà, ça nous prend quand même pas mal de temps, malgré tout, quoi. C'est ça.
Je vais laisser rebondir Sylvain sur ces questions-là. Moi, j'entends, et en préparant un peu ce webinaire-là, j'ai perçu aussi cette question-là. Vous avez, en tant que producteur, transformateur et tous vos adhérents aussi, une obligation légale de résultat sur le produit fini. Et en même temps, on sent bien, on voit bien qu'il y a de plus en plus une demande sur des obligations de moyens. On a parlé en préparant notamment sur les obli sur la toute la partie analyse de lait au préalable. Comment ça se passe concrètement et comment est-ce que ça fait partie des sujets de difficulté pour les producteurs qui sont vos adhérents?
Alors, effectivement, l'esprit de la réglementation européenne, c'est la responsabilité du producteur. Et du coup, par rapport à ça, ça veut dire, bah, par rapport aux moyens, c'est au producteur de définir les moyens qu'il doit mettre en place. Donc, il y a une analyse de risque. Il y a également ce qu'on appelle le guide des bonnes pratiques d'hygiène également, qui est un guide pour nous. Mais du coup, par rapport à tout ça, je voudrais rebondir à ce que vient de dire David Boutier. Il faut que l'administration soit vigilante sur un point, c'est que on peut pas faire du copier-coller sur toutes nos structures. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on met en place, par rapport à la taille de nos structures, des process qui sont adaptés et qui permettent on va dire, d'assurer les choses, de plaquer quelque chose qui ne serait pas adapté, mettrait en fait en péril la sécurité sanitaire de nos produits, quoi.
y a des choses qui sont mises en place parce qu'on connaît notre environnement, on connaît nos process, et du coup, c'est nous qui savons où sont nos risques. Et de nous imposer des choses qui ne seraient pas adaptées, en fait, alourdirait notre charge de travail qui est déjà importante. Et potentiellement, si on se concentre trop sur du contrôle, on va en oublier l'essentiel, c'est-à-dire à maîtriser nos process et nos produits, quoi.
On va vers le mieux par rapport à ces postures-là ou à cette relation-là. Vous me disiez que vous étiez plus ou moins consulté sur la redéfinition d'un vade-mecum, des choses comme ça.
Oui, alors du coup, la PFI est adhérente à une association nationale qui est l'ANPLF, l'Association nationale des producteurs laitiers fermiers. Et on est avec, au sein de l'ANPLF, il y a 20 structures régionales qui se fédèrent. Et donc, on est en contact avec la DGAL donc pour justement qui nous a consulté sur leur prochain vade-mecum, qui est donc c'est le la checklist des inspecteurs vétérinaires quand ils font les inspections. Et surtout, on a voulu discuter, rediscuter sur une note de flexibilité qui est apparue à l'automne dernier, donc il y a bientôt un an. Et qui nous imposerait de tendre vers une analyse mensuelle de lait. Et en fait, dans certains cas, alors effectivement, quand on a des gros volumes, ça peut se justifier. Et dans d'autres cas, en fait, on va avoir des difficultés carrément de mise en œuvre parce que au niveau du nombre d'analyses, on fait en général appel à des laboratoires qui ne seraient pas capables d'absorber ces choses-là. Et puis, ça demande également du temps à passer à analyser les analyses. Et puis, par rapport aux critères, donc on les rencontre demain d'ailleurs par rapport à notre première rencontre. Et du coup, notre objectif, c'est plutôt de mettre en place des contrôles, enfin des autocontrôles, des plans d'autocontrôle qui soient adaptés à nos structures et à nos process, plutôt que de faire une analyse de lait qui ne sera pas forcément pertinente dans nos fermes, quoi.
Moi, j'ai une question. En fait, j'entends, et pareil, en préparant ce webinaire, j'ai perçu deux sujets. Celui de l'ambiguïté entre obligation de résultat et obligation de moyens, d'une part, dont on vient de partager quelques éléments. Et puis, il y en a un autre qui est dans chacune de vos interventions, et je vais demander à Pierre Sens de réagir là-dessus. C'est une question personnelle, mais vous pourrez tous rebondir dessus. C'est la question de la confiance. Et je me suis posé la question en tant que membre de ce réseau-là, hein, qui a pour du RSPV, qui a pour mission de mettre les gens en relation parce qu'on considère que il vaut mieux se connaître avant, et discuter avant et partager des éléments de vocabulaire pour être en capacité de traiter plus efficacement, les situations de crise quand elles adviennent. Je me suis posé la question suivante. Est-ce que, et je l'adresse vraiment à Pierre Sens dans un premier temps, vous expliquez habituellement que la confiance, c'est une question de yo-yo. Ça monte et ça descend. Le sujet, c'est de traiter les points bas de la confiance parce qu'elle peut être percutée par différents événements historiques, etc. Est-ce que, une culture, je ne vais pas dire de la suspicion, du soupçon, mais du doute, qui régit le sanitaire parce qu'on va contrôler et parce que certainement la question le nécessite, est-ce que cette culture du doute, elle est de nature à favoriser la confiance entre les acteurs? Et en même temps, alors qu'on cherche justement à créer cette confiance-là, et si je vais un tout petit peu plus loin, est-ce que cette culture du doute, elle cultive pas aussi le doute chez le consommateur lui-même?
Oui, alors je comprends ce que vous voulez dire. Après, je pense que c'est comme dans tout management, comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire, c'est toute une question effectivement de dosage en disant oui, je peux, et je crois que c'est l'esprit quand même de la réglementation, y compris de la vision européenne. Enfin, là, il y a des gens bien plus compétents que moi sur le domaine, mais c'est bien l'esprit de dire quand même. On fait confiance, il y a un dispositif, il y a des choses qui sont mises en place. On peut prendre en compte justement ces contrôles qui sont faits par l'opérateur lui-même pour, on va dire, calibrer ce qui relève du contrôle officiel. Donc je pense que Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer cette question de confiance et de contrôle. Il faut simplement, la difficulté, c'est effectivement, notamment en période de crise sanitaire médiatisée, etc., c'est comment tout n'est pas balayé par justement le tsunami qui arrive et ensuite pour éviter de repartir à zéro comme s'il n'y avait rien qui existait. Je pense que la vraie difficulté, elle est là. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression parfois que quand il y a un accident, y compris un accident qui peut s'expliquer et qui n'est pas lié, évidemment, qui n'a rien de volontaire ou de négligence ou de choses coupables, on a l'impression que c'est comme s'il n'y avait rien qui était fait et que finalement, c'est forcément très suspicieux. Donc la difficulté d'entretenir ça, c'est bien ça, à mon avis. Mais pour autant, il me semble que le contrôle est nécessaire quand bien même on fait confiance à l'opérateur. Ça ne s'exclut pas pour moi.
Très bien. Thierry Touzec, votre expérience?
Oui, moi je pense, enfin, j'ai plutôt le sentiment qu'on essaye d'avoir une approche pragmatique et on ne demande pas à un petit producteur et encore moins à un restaurateur un process très compliqué de contrôle et de maîtrise de type HACCP comme on pourrait le demander à une industrie agroalimentaire. Moi je pense qu'il faut voir les contrôles plutôt comme un regard extérieur aussi qui conforte ou qui interroge le système du producteur et qui lui permet aussi de progresser. Je pense qu'il faut le voir aussi de cette façon-là. J'ouvre aussi peut-être le problème aussi parfois des alertes qui créent la confusion et le doute, c'est aussi la surmédiatisation et peut-être parfois la difficulté de communiquer pour dire ça c'est maîtrisé, ça fait partie des choses qui arrivent. Il y a aussi sans doute dans la communication aussi à travailler pour rassurer le consommateur et en tout cas proportionner la réaction. Il peut y avoir des fois où il y aura une situation de négligence et là même sanctionnable, mais on peut avoir des cas où, parce que ça fait partie, le zéro risque n'arrive pas, n'existe pas et qu'on peut de temps en temps effectivement avoir des incidents, d'où les mesures de retrait rappel et l'un des interlocuteurs disait dans les intervenants disaient ben en fait ça rassure le consommateur, dire voilà on a eu un problème, on est en train de on le régler, on le rappelle. Je pense qu'il faut que ça rentre aussi dans notre culture en fait en tant que consommateur, même si c'est peut-être plus facile à dire quand on est entre guillemets dans le domaine et donc on sait aussi que ce sont des choses
Avec
qui
une
peuvent arriver.
connaissance du secteur, oui. Et David, je vous laisserai rebondir sur cette question-là, mais j'avais une autre question derrière ces sujets-là, parce que là, on parle facilement entre nous, entre producteurs, administration et compagnie. Comment ça se passe vis-à-vis de vos consommateurs, je vais dire institutionnels, si vous vendez à des collectivités territoriales, à des cantines, des choses comme ça? Est-ce que il y a d'autres enjeux, derrière les éléments qu'on a partagés?
Disons que effectivement, on a quand même toujours à l'idée de maîtriser au mieux nos process, hein, et de faire très attention. Ça, c'est avant tout très important, hein, c'est sûr. Bon, on a notre produit aussi de ne pas, comment dire, modifier, je dirais, notre produit à la base, hein, parce que c'est aussi ça qu'on vend quand même, hein, c'est une qualité de produit, mais bon, non, on est quand même, on a toujours à l'idée quand même de faire le plus attention possible et de respecter toutes les règles, comment dire, sanitaires et d'hygiène au quotidien, quoi.
Et est-ce que vous fournissez des collectivités territoriales ou des gens comme ça? Et quel lien vous
Un
avez
petit
avec eux?
peu, ben, un peu, effectivement, enfin. En fait, en collectivité, on a juste à proximité un collège et une cantine municipale avec qui on travaille. Eux communiquent effectivement sur le fait qu'on soit partenaire avec eux et que voilà et qu'on est à 5 km de leur établissement et que les gens nous connaissent et voilà. Donc c'est pour les parents, c'est aussi rassurant et non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi sur la qualité des produits, quoi.
Ça ne surenchérit pas vos obligations sanitaires pour autant.
Non,
OK.
non, malgré tout, non, non, non.
Très bien. Je vois que l'heure tourne et qu'on va bientôt arriver au bout de ce séminaire. Certains sont déjà en train de nous quitter pour rejoindre d'autres réunions. Moi, j'avais envie de vous poser une petite question, un peu de synthèse, à la fin de ce premier épisode où on est vraiment sur les perceptions et le vécu autour de ces enjeux du local et de la sûreté du local, la sûreté sanitaire notamment. Si vous aviez un desiderata, une chose à améliorer dans l'ensemble de ces process, dans les relations entre les acteurs qui gèrent cette sécurité sanitaire des aliments locaux. Qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer? On va commencer par Thierry, si vous voulez bien.
Peut-être justement une relation si apaisée où la relation contrôleur-contrôlé, c'est aussi une relation qui est nécessaire, qui est utile, qui est une attente aussi de la société et qui en même temps peut permettre de progresser et de rassurer tout le monde et donc finalement de sécuriser aussi l'activité économique, hein, parce que lorsqu'on a une crise, ça peut mettre à mal l'économie du producteur.
Sylvain?
Vaste question. disons que je suis un peu d'accord avec Monsieur Touzé. Nous, on aimerait que l'administration reste à l'écoute de nos contraintes. Parce que justement, il y a une réglementation européenne qui a été mise en place et une flexibilité au niveau national. Et en fait, on a quand même la sensation que l'administration cherche un petit peu, petit à petit, à grignoter des petites choses. Et justement, pour avoir des relations apaisées, il faut qu'on arrive à discuter ensemble et qu'on reste quand même dans du raisonnable. Voilà.
David?
Oui, je suis d'accord avec M. Bernard, en fait. Hein. C'est vrai que c'est important hein, d'avoir de bonnes relations et de collaborer ensemble, hein, effectivement, et aller dans le même sens. Voilà, tout sans forcément arriver à des sanctions, mais plutôt dans une collaboration et une démarche d'échange. Et voilà, quoi.
Et je laisserai
Ouais.
presque conclure Pierre avant de laisser la parole à Sylvie pour la conclusion de ce webinaire.
Non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, cette notion de collaboration et de compréhension des situations respectives, elle est importante. Après, il y a toujours une relation contrôleur-contrôlé qui existe. Il faut effectivement qu'elle soit la plus, on va dire,
Sereine.
sereine et au service de l'objectif final. Mais après, voilà.
Ça, je pense en tous les cas qu'on a bien entendu que vous aviez tous le même objectif. En tous les cas, c'est plutôt rassurant vu de mon côté de consommateur. Donc voilà. Sylvie, je te laisse la main.
J'arrive.
Est-ce qu'il y a des échanges sur le chat qui nécessiteraient peut-être, je crois que c'est Pascal ou Fata qui
On
gère ça?
a quelques échanges, la régie, mais pas beaucoup, mais les échanges en fait qui insistent sur le côté l'importance de la formation et des structures d'appui pour bien adapter sa structure au risque, mais aussi sur le fait qu'il faut faire attention, enfin qu'il faut suivre les événements de façon linéaire dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas aussi un instant donné, c'est qu'il faut aussi regarder dans le temps comment les choses évoluent. Et puis du côté contrôle, on dit quand même que le contrôle est organisé pour bien détecter les anomalies. Et ce qu'on retient du chat, mais je vais pas anticiper sur la conclusion, c'est que le dialogue pour bien comprendre, bien cerner le risque de l'atelier est important pour les deux parties, si on peut parler de deux parties. Voilà la régie.
Merci, Pascal.
Merci la régie. Ici les studios. Donc moi je voulais d'une part remercier tous nos intervenants qui ont accepté de nous consacrer du temps dans la préparation de ce webinaire et du temps pour y participer. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu s'inscrire et qui ont suivi avec intérêt ces échanges. Je trouvais que on a appris des choses, donc c'est toujours un moment très intéressant. Donc je vous rappelle que il y aura une suite puisque nous aurons donc je vais vous partager tout de suite la diapo. Voilà, j'espère que vous la voyez.
Elle est arrivée.
Voilà, donc la suite, c'est l'épisode 2 que nous sommes en train de mettre en place déjà sur le point de vue des experts et je vous avoue que nous avons aussi découvert un certain nombre d'acteurs qui ont un rôle très important dans l'évaluation des risques dans ces types de production. Nous en parlerons le mardi 4 novembre 2025 de 13h à 14h. Et nous aurons l'épisode 3 le mardi 9 décembre 2025 de 13h à 14h, où, comme l'ADN de notre association, nous essaierons de montrer que la réponse à toutes ces questions doit se faire nécessairement de manière co-construite et en mettant tout le monde autour de la table, ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à nous rejoindre. Vous avez donc à l'écran à la fois le QR code que vous pouvez scanner et qui vous amènera directement sur la page de l'adhésion de notre site. Et enfin, d'autre part, le lien, je vous informe aussi que notre site est en pleine rénovation. C'est un chantier très important qui nous occupe depuis plusieurs mois et nous espérons aboutir assez vite. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente après-midi et n'oubliez pas les prochains épisodes avec le réseau de santé publique vétérinaire.
Merci à toutes et tous et à très bientôt, on l'espère.
Merci, au revoir.
Au
Merci, au
revoir.
revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.